21h à Bamako et à Conakry, bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous, aujourd'hui au sommaire de Sahel Plus. En Sierra Leone, témoignage de premiers patients d'Ebola guéris. Gouvernance africaine, il s'agit de rester vigilant. Bamako se prépare à la fête de la Tabaski.
Le marché n'est pas facile. J'ai fait le tour depuis le côté Dogon jusqu'au côté Peul ici. Mais le côté Dogon est un peu abordable par rapport au côté Peul. Je n'ai pas encore trouvé. Je n'arrive pas à trouver vraiment.
Reportage de Kassim Traoré à suivre. Enfin, rencontre avec la styliste malienne Marietou Diko dans notre page culture. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce micro. L'État islamique vient de revendiquer l'exécution par décapitation d'un Britannique du nom de Alan Henning. Les terroristes évoquent des représailles aux frappes aériennes britanniques contre l'État islamique en Irak. Si la vidéo est authentifiée, ce sera la quatrième décapitation par l'État islamique d'étrangers en captivité au cours des dernières semaines. Cela dit, les militants de l'État islamique ont poursuivi aujourd'hui leur offensive contre la ville de Kobané, limitrophe de la Turquie. Malgré les frappes de la coalition internationale au sol, les combattants kurdes résistent depuis plusieurs semaines sans pouvoir repousser les djihadistes. Plus de 160 000 ont fui vers la Turquie, qui a promis aujourd'hui de tout faire pour que Kobané ne tombe pas. Un patient présentant des symptômes de fièvre Ebola a été admis à l'hôpital aujourd'hui dans la capitale américaine, Washington, dans l'université de Howard. Camille Gros-Didier.
Selon Kerrianne Hamilton, porte-parole de l'hôpital de l'université Howard, le patient qui s'est récemment rendu au Nigeria est dans un état stable et a été isolé. Entre-temps, le directeur des services de santé du comté de Dallas au Texas a dit que le premier cas d'Ebola diagnostiqué aux États-Unis est sous contrôle, en dépit de la mise en quarantaine de 4 personnes, tandis qu'une centaine d'autres ont été placées sous haute surveillance. Selon les médias américains, le Libéria prévoit de poursuivre en justice le premier malade du virus à Ebola hospitalisé à Dallas. Thomas Duncan aurait menti sur un formulaire qu'il a rempli à l'aéroport le 19 septembre avant son départ pour les États-Unis. Par ailleurs, un caméraman américain travaillant au Libéria pour NBC News a contracté le virus à Ebola. Il sera rapatrié et toute l'équipe sera placée en quarantaine pendant 3 semaines, a fait savoir la chaîne de télévision.
9 casques bleus nigériens tués au Mali. Leur convoi a été attaqué par des hommes lourdement armés sur des motos. Selon la MINUSMA, depuis le début de l'année, près de 30 soldats de la mission onusienne ont déjà perdu la vie. Olivier Salgado, son porte-parole.
Ce matin, un convoi de la MINUSMA a été pris en embuscade par un groupe armé qui a intervenu sur des motos lourdement armées. Et cette attaque a donc entraîné la mort de 9 de nos casques bleus nigériens. Ça s'est passé sur l'axe Menaka-Asongo, à une quinzaine de kilomètres de Indelin. On est en train de mettre en place des mesures pour parer à ces attaques qui ont été trop fréquentes ces derniers mois. Évidemment, on ne peut pas rester sans réaction face à ces attaques répétées.
Olivier Salgado, porte-parole de la MINUSPA, joint par Nicolas Pinault.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
La bataille pour l'aéroport de Donetsk se poursuit en Ukraine. Kiev a accusé aujourd'hui des militaires russes d'appuyer l'offensive des séparatistes contre cet aéroport stratégique dans l'est du pays, au lendemain de la mort d'un employé suisse de la Croix-Rouge, toujours à Donetsk. Visite surprise du premier ministre David Cameron en Afghanistan. Il s'est entretenu avec les dirigeants du nouveau gouvernement d'unité nationale dans une conférence de presse. M. Cameron a renouvelé le soutien de Londres aux forces militaires afghanes, malgré le retrait fin 2014 des 3000 soldats britanniques de la mission de l'OTAN. Économie américaine enfin, selon un rapport paru aujourd'hui, le taux de chômage a reculé en septembre à 5,9%, soit son plus bas niveau depuis 6 ans. Quelque 248 000 emplois ont été créés durant la même période, indique le département du travail. Ces chiffres dépassent les prévisions des économistes et confirment la relance amorcée il y a quelques mois. Cela pourrait aussi conduire au relèvement des taux d'intérêt de la Banque centrale, selon les experts. Vous écoutez La Voix de l'Amérique, place maintenant à la suite de Sahel Plus. Claire Morin-Gibourg.
Retour à la partie magazine de Sahel Plus, un centre de traitement de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à Kenema, l'un des districts de la Sierra Leone les plus touchés par l'épidémie d'Ebola, a laissé partir ses premiers patients guéris. Camille Grosdidier.
Selon le ministère sierra-léonais de la Santé, au moins 423 cas de fièvre hémorragique à virus Ebola ont été recensés dans le secteur de Kenema. Parmi eux, Kadiatou Bangoura, 11 ans, qui a survécu à la maladie, explique son frère Emmanuel Bangoura. Je suis heureux, je remercie Dieu qui m'a rendu ma sœur, car je sais que c'est une maladie mortelle. Dans un village des alentours, dans le secteur de Waterloo, Osman Sisei brandit un certificat de guérison que lui a remis la Croix-Rouge. Il affirme avoir reçu ce certificat lorsqu'il est sorti guéri de la clinique. Il n'empêche, explique Gandhi Callan du ministère sierra-léonais de la Santé, il reste à ses survivants bien des obstacles à surmonter. Le retour d'un survivant dans sa communauté représente un grand défi, dont la stigmatisation, qui est un problème majeur, non seulement pour les survivants, mais pour les malades qui veulent se déclarer et regagner un hôpital pour être soignés. D'où les efforts de la Croix-Rouge pour les conseiller avant leur réintégration. Des volontaires rencontrent les familles, les chefs traditionnels et les communautés. Par ailleurs, le programme de sensibilisation au danger du virus Ebola se poursuit et la détection précoce de la maladie semble essentielle à la survie.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique, 101.7 à Bangui. La fondation Mo Ibrahim a publié cette semaine son classement 2014 des 52 pays africains sur la base de 95 indicateurs classés en 4 sous-catégories. Cette année encore, l'île Maurice occupe la tête du classement devant le Botswana et l'Afrique du Sud. La Somalie, elle, se classe en bas du tableau après la République centrafricaine. Selon Mo Ibrahim, les 5 pays en tête du classement ont vu, ces 5 dernières années, leurs notes se détériorer dans au moins une catégorie, preuve, selon lui, que même les meilleurs doivent demeurer vigilants. Timothée Donangmaï a recueilli l'analyse de Dany Aïda, chargé de programme du National Democratic Institute à Ouagadougou.
Sur la somme de plans, il y a des pays qui ont fait des efforts substantiels, notamment quand on considère des critères comme la participation, les droits humains, le développement humain, et à l'opposé de la gouvernance économique durable qui était considérée pendant longtemps comme étant le critère principal. Et puis, donc, je crois qu'en termes de stabilité, de fonctionnement des institutions, on verra que d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre, si on compare les rapports de la Fondation Mo Ibrahim sur une dizaine d'années, globalement, on peut constater quand même qu'il y a des efforts.
Cette année encore, l'île Maurice domine le classement d'année.
Oui, tout à fait. Là, on constate la constance dans les performances des institutions du pays sur différents plans. On voit l'île Maurice, le Cap-Vert, le Botswana quand même, qui sont le tuyau de tête. C'est assez remarquable. Vous voyez, quand on prend, par exemple, les 10 premiers pays classés, bon, on voit, par exemple, le Sénégal en 9e position, les Sénégal en 10e. En Afrique de l'Ouest, évidemment, le Sénégal reste la grande référence. Quand on prend l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, le Rwanda, quelque chose qu'on peut reprocher à ce pays en termes de démocratie, a démontré cette stabilité sur les critères. À mon avis, cet indice a l'avantage d'offrir quand même des critères assez objectifs en termes de mesure de performance des États. Et cela mérite d'être salué. Et c'est un référentiel qui doit pouvoir inspirer les décideurs politiques et économiques des États pour comprendre dans quel secteur il faut faire des efforts. Et globalement, vous constaterez qu'il y a, en plus de la gouvernance qui permet de mesurer la qualité donc, de la façon dont les États fonctionnent, cela peut être comparé aux performances économiques de ces pays également. Donc, c'est à saluer. Et si je me réfère encore à la région où je me trouve, moi-même, l'Afrique de l'Ouest, vous verrez qu'il y a un certain nombre de pays qui étaient très mal classés jusque-là. Exemple de la Côte d'Ivoire, du Libéria, Sierra Leone ou Niger, par exemple, ont fait des efforts substantiels dans le domaine notamment de la participation citoyenne à la gouvernance notamment.
On se rend compte qu'en Afrique francophone, en Afrique centrale, on traîne encore là-bas.
Vous verrez que l'avant-dernier, c'est Centrafrique, juste avant la Somalie. Donc, ce sont les pays en crise où les institutions de l'État sont à terre. Et donc, quand on considère les principaux critères comme la sécurité et l'état de droit, la participation aux droits humains, le développement économique ou le développement humain, en gros, il y a même de ces pays où les données ne seront même pas existantes pour permettre une mesure objective. Et l'Afrique francophone, c'est bien de le remarquer, hein, en termes de performance de la démocratie, n'est pas la grande référence quand on considère ce critère-là d'une région à l'autre, aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale. Et cela doit interpeller parce que, je me rappelle encore, il n'y a pas si longtemps, il y a un chef d'État africain qui osait répondre à Obama en disant qu'il fallait de grands hommes par-delà les institutions fortes. Et vous remarquerez que les institutions fortes, c'est elles qui permettent à l'État de droit de fonctionner en faisant participer activement les citoyens avec la régulation que cela permet au niveau des institutions du pays, au-delà donc des hommes qui les dirigent. C'est ainsi qu'un petit pays comme le Cap-Vert, par exemple, ou bien comme le Botswana, arrive à être cité en référence.
Dany Aïda, chargée de programme du National Democratic Institute à Ouagadougou. C'est ce dimanche 5 octobre que la communauté musulmane du Mali célébrera la fête de Tabaski à Id el-Kébir. C'est une tradition pour les fidèles musulmans de faire le sacrifice d'Abraham. Pour cela, chaque chef de famille doit égorger, si possible, un mouton. C'est pourquoi les rues de Bamako débordent de moutons, dont les prix varient de 35 000 francs CFA jusqu'à 1 million de CFA toujours pour un bélier. Un budget conséquent, bien sûr, en pleine rentrée scolaire. Reportage de notre correspondant Kassim Traoré, qui s'est rendu sur le marché des moutons à Bamako.
Dans les différents marchés de bétail que nous avons sillonnés, l'animal vedette s'appelle le mouton. C'est là, à quelques jours de la fête de Tabaski, les clients font des va-et-vient entre les hangars des vendeurs de moutons.
Bon, je viens de chercher un mouton. Et en réalité, le marché quand même est très très fourni, que ce soit au niveau des marchés à bétail ou qu'au niveau des carrés, c'est plein, mais le prix quand même est un peu élevé par rapport à la bourse des acheteurs. Parce qu'en temps normal, les moutons qu'on a l'habitude de payer à 50-60 000 se trouvent aujourd'hui à 90-100-125. Donc vraiment, l'offre quand même est assez suffisante, mais le prix quand même est un peu élevé.
Les marchés de Nyamana est l'un des rares marchés de bétail de Bamako qui est bien fourni. Mais en cette veille de fête, les prix des moutons ne sont pas abordables pour ce fonctionnaire qui a fait le tour des moutons à plusieurs reprises.
Mais je trouve le prix très très cher. Très cher. Les prix ne sont pas abordables franchement. Parce qu'un bélier comme ça, on te parle de 200 ou encore 150 000. Un pauvre monsieur qui ne gagne pas grand-chose, quand on lui dit de payer ça, c'est pas abordable. Donc le marché n'est pas facile.
J'ai fait le tour depuis le côté Dogon jusqu'au côté Peul ici. Mais le côté Dogon est un peu abordable par rapport au côté Peul. C'est ça, j'ai trouvé un peu de différence. Et je n'ai pas encore trouvé, je n'arrive pas à trouver vraiment. Mais je suis en train de me balader toujours.
Certains clients tirent leur épingle du jeu, surtout quand ils sont les premiers arrivés au niveau des vendeurs de moutons, qui très souvent ne font pas de marchandages avec les clients du matin.
Pour le moment quand même, ça n'a pas été très cher quand même. Bon, parce qu'on a eu 7 moutons même à 132 500. Ça va, alhamdoulilah, quand même.
Plusieurs facteurs expliquent la cherté des moutons. Les peuls et autres vendeurs de moutons pensent que l'État doit voir ce côté afin d'apporter des allègements.
Depuis 1996.
J'exerce cette profession depuis 1996. L'achat, les transports, l'aliment bétail, rien n'est facile dans ce métier. Outre cela, la mairie aussi nous impose souvent des taxes. Il faut par exemple payer chaque jour 50 voire 100 francs par mouton. Les clients ne se bousculent pas comme les années précédentes.
Aujourd'hui, le constat unanime à Bamako est qu'il y a des moutons pour toutes les bourses. Mais c'est l'argent qui fait défaut. Il faut signaler aussi que les Bamakois n'achètent pas très tôt leurs moutons. Ils préfèrent attendre la dernière minute. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Nous terminons l'émission avec la page culture. Les nombreux et talentueux stylistes africains peinent à s'imposer dans le marché mondial de la mode. Lors d'un passage à la Voix de l'Amérique, ici à Washington, la styliste malienne Marietou Diko a fait le plaidoyer des créateurs africains. Ces chefs d'entreprise au grand potentiel économique. Au micro de Nathalie Barge, elle s'explique à partir d'un exemple simple, le fameux boubou, connu dans le monde entier.
Le boubou, c'est quoi ? C'est une étoffe qui est métable, on passe la tête dessus et tranquille, on est net. Et ce boubou-là, je l'ai même vu sur des designers américains ici qui font le boubou. C'est le style de boubou mis au goût du jour que moi j'appelle le boubou et ses déclinaisons. Mais il y a aussi des chemisiers que nous faisons pour dames avec des étoffes africaines.
Moi, je reviens au boubou. On ne voit pas de boubou dans la rue, en Occident, dans ces villes. On en voit quelques-uns, mais on pourrait en voir plus aussi.
Mais on ne peut pas en voir plus parce que ce qui s'est passé avec les créateurs de mode qui existent sur la place depuis des décennies, c'est qu'ils ne se sont pas attelés à avoir des espaces dignes de ce nom pour que la mode africaine puisse être connue. Quand on ne connaît pas quelque chose et quand il n'est pas disponible, quand une chose n'est pas disponible, on ne peut pas la voir. Donc ce qui manque, c'est avoir, au lieu de prendre des fonds des ONG, de chez les présidents et tout, et aller faire des défilés de mode, pourquoi ne pas développer la mode africaine dans les pays développés et faire des espaces, des corners pour tous les designers? C'est très beau d'aller faire des défilés sur le désert, d'aller faire des défilés, mais c'est un défilé par an. Est-ce que tout le monde peut se déplacer pour y aller? Non. Et pour que ce soit développé, il faut des corners, il faut des espaces de vente pour dire voilà, nous sommes là, nous existons, le boubou est là. Le boubou et ses déclinaisons, déclinées sous toutes les formes, sous toutes les coupes, et avec du tissu africain ou un mélange de tissu africain.
Tout simplement, ce que vous dites, c'est le boubou, si on le voyait dans la plupart des boutiques, ne serait-ce qu'à Washington, les femmes s'habilleraient comme ça.
Bien sûr, chez Burberry's, chez H&M, la tendance, c'est le boubou. Les étoffes africaines avec des robes, des imprimés wax qui ont été repris. Le wax, c'est des imprimés des usines. Il y a des reprises, il y a eu même African Instinct qui s'est passé sur les 5 printemps de Paris, j'y étais. Et donc il y a quelquefois le déclic, on nous lance des perches et nous n'arrivons pas à les saisir. L'argent que nous demandons aux personnes, aux nantis, on les utilise à faire du matu-vu. Non, il faut penser au développement concret. C'est pas s'imposer, c'est suggérer nos tissus. On ne peut pas imposer quelque chose à qui que ce soit, mais suggérer nos étoffes, suggérer notre mode et vulgariser notre mode.
La styliste malienne Marietou Diko. Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Au montage, Michel Joseph. À la technique, Glenn Van Calio. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Et nous nous quittons en musique avec le Sénégalais Fahada Freddy qui vient de sortir un nouveau single, We Sing in Time. Rendez-vous lundi, 21h, temps universel sur La Voix de l'Amérique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel+. Bonne soirée, bonne nuit et très bon week-end à tous. One by one, the monsters tremble.